Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, je reçois aujourd'hui Marilyn Dury, qui est psychocriminologue pour son livre Les Rouges-Gorges. Bonjour madame.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, les rouges-gorges, a priori, et la psychocriminologie, ça ne matche pas, comme on dirait. Alors expliquez-nous, Marilyn Dury, le choix de ce titre et le contenu du livre, qui est paru aux éditions Maya, je crois.
C'est ça, absolument. Alors, pourquoi ce titre ? D'abord, pourquoi ce livre ? Ce livre, c'est sur les tueurs en série, sur leur profil. Pourquoi ce titre ? Parce que ce qui m'interpelle avant tout, ce sont les victimes. À un moment ou à un autre de leur vie, leur gorge a rougi sous la pression de ces prédateurs. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé les rouges-gorges. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil à toutes les victimes de ces prédateurs.
Oui, alors, rouge-gorge, c'est la goutte de sang. Enfin, le symbole, c'est ça?
Absolument. Un rouge-gorge a la gorge rouge. Et à un moment ou à un autre, souvent, les victimes sont étranglées, égorgées. Et ça m'a tout naturellement fait penser à ce petit oiseau qui représente aussi... la beauté, l'innocence,
voilà. Et tout d'un coup, la cruauté, voire la monstruosité, on y reviendra.
Complètement. Donc, on est vraiment aux antipodes.
Voilà. Donc, ça explique ce livre. Alors, c'est un livre qui est dense, qui doit faire dans les 400 pages et quelques.
Presque, hein. Oui,
pour une dizaine de portraits que vous avez choisis. De tueurs en série.
Absolument.
On y reviendra un petit peu plus en détail. Mais tout d'abord, la question quand même qui doit turlupiner beaucoup d'auditeurs, c'est comment devient-on psychocriminologue ?
Alors, c'est... comment je suis devenue psychocriminologue ? Alors déjà...
Est-ce que par exemple, enfant, vous vous imaginiez dans cette orientation-là ?
Alors, enfant, non. Et puis, à l'adolescence, j'ai découvert le film Le silence des agneaux. Avec ce criminel Hannibal Lecter qui est un psychiatre cannibale. Et je me suis demandé s'il était possible qu'on puisse rencontrer ce genre de criminel dans la vie. Si
oui,
un tel homme pouvait
de la
exister.
C'était de la fiction. Mais
c'était de la fiction.
Vous vous posiez la question, mais est-ce que ça existe ?
Absolument.
Et c'est ça qui vous a mis... le pied à l'étrier, en quelque sorte.
C'est ça, tout à fait, parce que j'ai trouvé ça vraiment effrayant. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un tel être existe sur Terre. Eh bien, j'avais tort. Il y en a. Il y en a même beaucoup. Et j'en ai choisi 10 parmi plusieurs centaines, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Dont certains criminels prédateurs américains.
Oui, et on reviendra sur certains, et les auditeurs seront probablement surpris parce que ça dépasse un peu l'entendement parfois, le parcours de ces gens-là.
Ah oui, complètement.
Et alors, vous, est-ce que vous vous destiniez quand même à faire des études de droit ou vous vous intéressiez au monde judiciaire ?
Alors,
ou...
d'abord, je m'intéressais à la psychologie. Et puis, le droit m'a toujours interpellée aussi, et la sociologie. Donc, qu'est-ce qui pouvait réunir les trois ? C'est la psychocriminologie. Donc, c'est à la fois de la psychologie, du droit et de la sociologie.
Et alors, c'est une vocation qui est venue un peu tardivement, si j'ai bien compris.
Effectivement, je gardais ça dans un petit coin de ma tête. J'ai eu 5 enfants, j'ai 5 merveilleux petits-enfants. Et puis, j'ai choisi une direction tout autre. Hein. J'étais naturopathe, j'avais un cabinet de naturopathie sur Carcassonne. Et puis, j'ai eu un accident de travail. Qui m'a totalement immobilisée et c'était le moment ou jamais de reprendre mes études, chose que j'ai faite. À 50 ans, j'ai repris mes études.
C'était une reconversion imposée par les circonstances.
Absolument, hein. Absolument. Et puis j'ai toujours suivi l'actualité par rapport à ce genre de domaine et j'ai pensé que c'était le moment ou jamais. Je ne pouvais plus bouger. C'était le moment.
Et alors donc, la psychocriminologie, c'est... Et comment définiriez-vous cette science ?
Alors en fait, la psychocriminologie, c'est le but, c'est d'essayer de comprendre le passage à l'acte. Pourquoi les criminels en sont arrivés là? Pourquoi ils sont passés à l'acte pour la première fois, puisque c'est ce qui va tout déclencher? C'est le premier passage à l'acte. Donc, essayer de comprendre déjà leur parcours personnel, leur parcours criminel, et essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment de leur vie, ils ont basculé?
Et alors vous, quand vous mettez à écrire ce livre, comment procédez-vous? Parce que ça doit être un travail de compilation énorme, ça.
C'est un travail de titan, en fait. C'est des recherches. C'est des recherches parce qu'il faut essayer de retrouver tout le parcours du criminel en question, essayer de comprendre comment il a pu en arriver là, parce qu'il s'est systématiquement passé quelque chose dans son enfance, parce que la clé, elle est là, elle est au niveau de son enfance.
Oui, ça, c'est une constante que
ça,
vous retrouvez.
Ah, oui, systématiquement. Tous, alors on ne peut pas parler de profil de tueur en série, ça on ne peut pas. Par contre, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes et essentiellement au niveau de leur enfance.
Oui, et alors vous dites donc c'est des recherches, où est-ce que vous vous adressez pour trouver toutes ces données?
Alors j'ai accès à certains documents. Déjà en tant que psychocriminologue, et puis je fais des recherches dans les médias, je fais des recherches...
Est-ce qu'il y a des archives, par exemple?
Oui, absolument, il y a des archives. Petit à petit, je réussis à établir leur parcours, et puis c'est le début en fait. Hein. C'est le début, et une fois que j'ai réussi à obtenir tout ce dont j'avais besoin, je commence à établir le profil avec ces éléments.
Oui. Donc à partir de là, vous y êtes alors, jusqu'au cou, si je puis dire.
Effectivement.
Alors maintenant, il y a le choix. Vous faites un livre, même s'il est dense et long, et vous vous limitez à 10.
Oui, bon, effectivement.
Là aussi, il y a un choix à faire. Il faut en éliminer beaucoup. Quelles ont été vos motivations pour retenir celui-ci plutôt qu'un autre?
Alors, il y a 8 tueurs en série français, parce que c'était important quand même que ce soit des tueurs en série français.
Oui, des noms familiers, d'ailleurs.
Des noms familiers,
le voir,
pour tout le monde, tels que Michel Fourniret, tels que, on va le voir après. Systématiquement, c'est des noms qui interpellent. Hein. Tout le monde a entendu parler des tueurs en série français, déjà. Et puis, je voulais mettre vraiment en avant leur parcours, parce que vraiment, on peut voir à travers chacun d'entre eux qu'ils ont tous à peu près le même parcours déjà. Et puis, j'ai voulu prendre 2 tueurs en série américains, enfin un tueur en série américain très connu qui s'appelle Ted Bundy. Et le dernier, c'est un petit peu différent, c'est un tueur à gages. Mais... on retrouve vraiment toute la psychologie des tueurs en série. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'inclure dans les Rouges-Gorges.
Ah, parce qu'un tueur à gages, c'est quelqu'un qui fait ça pour de l'argent.
Absolument. Mais celui-là, il est très particulier.
C'est-à-dire qu'il, à votre avis, il était déjà prédestiné à faire ce genre de boulot,
complètement,
si je peux dire.
Parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans tous les tueurs en série. Hein. Manipulateur, pervers, narcissique... Toutes ces pathologies, on les retrouve chez tous les tueurs en série, et c'était l'exemple type. Donc, psychopathe, sociopathe, on se pose un peu la question, mais j'ai voulu le mettre aussi pour montrer qu'il pouvait y avoir à la fois quelques différences, mais on retombe toujours sur les mêmes profils.
Oui, pour vous, il ne dépareille pas dans la liste.
Absolument pas.
Oui.
De par sa façon de tuer ses victimes, absolument pas.
Oui, et alors donc, quelques noms, donc des noms qui ont fait l'actualité pendant un certain temps. Alors, donnez-en quelques-uns, Marilyn Durie.
Alors, Francis Holm,
Mais voilà, celui-là, tout le monde
crime,
l'a entendu dans les médias.
Tout le monde le connaît, je pense. Bon, Michel Fourniret et Monique Olivier qui prennent quand même une grosse place.
Alors ça, c'est un couple, c'est encore plus spécial, dans la mesure où la monstruosité est partagée par
absolument,
un couple.
Absolument, c'est pour ça que j'ai également établi le profil de la systémique du couple, parce que là, c'est vraiment très particulier. Et ça prend une place relativement importante dans les Rouges-Gorges, parce que... déjà de par la systémique du couple et je suis née à Charleville-Mézières dans les Ardennes et j'étais adolescente pendant la période criminelle de Michel Fourniret, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Un petit exemple, le château du Sautou, avant que ça ne devienne avant qu'il n'en fasse un endroit macabre, mes grands-parents allaient danser là-bas, donc c'est quelque chose qui m'interpelle
particulièrement.
Personnellement.
Voilà, personnellement.
Oui. Donc ça prend une place très particulière dans les Rouges-Gorges. Nous avons Guy Georges, le tueur de l'Est parisien.
Alors l'affaire de Perpignan aussi, on reviendra là-dessus parce que c'est proche de chez nous.
Alors le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Rançon aussi, qui prend une place relativement importante aussi. Ted Bundy pour les Américains. Richard Kuklinski, ce fameux tueur à gages, qui doit avoir un peu plus d'une centaine de victimes connues. Donc, il y a forcément un chiffre noir. Une centaine, oui, absolument.
En effet, ça laisse pensif.
Marc Dutroux,
oui, aussi,
qui
oui.
a ému aussi la Belgique et la France. Le Grélé, on en a entendu parler récemment. Le gendarme qui s'est suicidé, mais qui a laissé une lettre à sa femme expliquant qu'il était réellement.
C'est encore plus particulier parce que c'est un gendarme.
Absolument, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est échappé aussi longtemps à la justice.
Grosso modo, on va retrouver ça. Alors, je le précise tout de suite, dans une troisième partie, on en retrouvera quelques-uns particulièrement de ces gens-là. Donc, je précise aussi pour la suite que vous avez été juré dans une cour d'assises. Et ça, on va y revenir très en détail, Marie-Lyne Durie.
Absolument.
Parce que ça va nous intéresser pour une seconde partie. Et je suis sûr que ça va également passionner les auditeurs. On marque une première pause.